D'abord Marie-Charlotte Delmas, une spécialiste des faits, du folklore, des contes, des légendes, qui écrit des bouquins, qui collecte des contes et des légendes, et qui en plus organise le festival de Bagneux, qui s'appelle Zone Franche, tous les ans, à Bagneux, avec Jean-Luc Rivière, qui est juste là. Et juste à côté, il y a Virginie Marsagol et Audrey Conso qui viennent de signer le guide des faits aux éditions INTUSF, où c'est pour le coup plus une balade littéraire sur les faits à travers les époques et toutes les représentations des faits. Et alors pour commencer, parce que les faits c'est souvent les contes, on a un conteur avec nous qui s'appelle Pierre de Metz et qui va commencer par un petit conte pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance des faits.
Il était une fois une princesse qui était mariée à un prince. Ce prince, à la mort de son père, a été banni de son royaume par un rival. Et ils vivaient tous les deux dans un petit domaine. Et tous les jours, la princesse disait à son mari, « Mais pourquoi ne reconquiers-tu pas ton trône? Pourquoi ne combattes-tu pas ton ennemi? Mais que veux-tu que je fasse? Je n'ai ni argent pour acheter des armes, je ne connais pas les gens qui sont passés qui pourraient m'aider à fomenter une révolte. » Et tous les jours, c'était la même chose. Mon histoire aurait pu s'arrêter là, si elle ne s'était pas souvenue que lorsqu'elle était petite, dans le domaine de son père, il y avait une grotte. Et cette grotte était habitée par des fées. Alors un beau jour, elle est retournée chez son père. À ce moment-là, les fées étaient en guerre contre une famille d'ogres qui avait trouvé refuge dans le domaine. Elle avait accueilli les ogres parce qu'ils étaient en fuite. Et un beau jour, elle a reçu un message. Un carrosse tiré par 5 chevaux noirs aux yeux rouges est arrivé. Une fée en est descendue. Elle a demandé à voir la princesse. Si j'étais vous, je chasserais les ogres de votre domaine, car nous pourrions détruire votre château. Et si vous le faites, nous en serions reconnaissantes. Et la fée est repartie dans son carrosse. La princesse est exécutée, elle a chassé les ogres, et quelques jours plus tard, elle a reçu une petite caisse remplie de pierres précieuses et un message. Venez me voir dans 2 nuits à l'entrée de la grotte. Quand elle est arrivée à l'entrée de la grotte, il y avait 12 fées qui l'attendaient. 12 fées habillées de soie, de velours. Elles portaient un ruban avec une petite effigie représentant la fée. Elle a suivi les 12 dans la grotte. Elle est arrivée dans un domaine magnifique. Dans un petit vallon, il y avait un château. Elle est rentrée dans ce château. Elle est arrivée dans une chambre. Dans cette chambre, il y avait des tapis cousus d'or et d'argent. Des tentures étaient sur les murs et il y avait des bibliothèques partout, remplies de livres. Et au centre de cette chambre, il y avait un lit avec de l'hermine. La fée était allongée dessus. Et à côté, il y avait un bureau fait de marbre et de nacre. Je sais ce que vous voulez faire, et aussi j'ai décidé de vous aider. Vous trouverez sur le bureau une deuxième caisse, avec des pierres d'or et d'argent, qui vous permettront d'acheter des armes. Et prenez aussi ces perroquets, ils vous seront bien utiles. La princesse est repartie chez elle, elle est allée trouver son mari, elle lui a expliqué ce qui lui était arrivé. Et avec les pièces d'or et d'argent, ils ont pu acheter des armes, ils ont pu acheter des mercenaires, et ils ont lâché les perroquets dans la nature. Un des perroquets est allé se percher dans le verger du roi, qu'il l'a trouvé tellement beau qu'il a demandé de le faire attraper par ses serpents. Mais il était si beau qu'il ne pouvait pas l'enfermer dans une cage, et le perroquet volait de ci, de là. Et en fait, le perroquet écoutait toutes les discussions du roi, surtout quand il était avec ses ministres, et repartait donner toutes les informations dont le prince et la princesse avaient besoin. Si bien que grâce à l'argent des fées et au message des perroquets, ils ont pu détrôner le roi en une seule journée. Ils l'ont banni et ils sont montés sur le trône. Ils ont tous les deux été couronnés roi et reine. Leur règne a été très prospère, car la fée les conseillait en tout. Ils ont eu deux enfants, et comme le cadet était préféré par la population, ils l'ont marié à une princesse voisine pour faire une alliance. La princesse est arrivée avec toute sa suite, et ils se sont mariés. Le roi et la reine sont rentrés dans leur petit domaine, laissant le royaume prospérer. Mais ils n'ont pas été si chanceux que leurs parents. Il y a eu des famines, des guerres, des maladies. Car quand le roi et la reine ont été morts, la fée qui les avait conseillés est rentrée chez elle et a laissé le royaume à l'abandon. Mon compte est terminé. Il est parti au gré du vent, où un conteur viendra sûrement l'entendre et le compter au bouger.
Ça, c'est une première histoire sur les fées, un premier conte. Et vous l'avez remarqué, on a une fée qui, du coup, est presque révolutionnaire. Et je voulais en parler un petit peu avec Audrey et Virginie, parce que c'est une des figures des fées. On ne se doute pas qu'il n'y a pas une fée, mais qu'il y en a plein.
En effet, il n'y a pas que la fée Clochette hein, dans toutes les gammes des fées. On verra des fées libertines, des fées révolutionnaires. Et donc, le conte que vient de nous dire joliment Pierre s'appelle en fait la princesse couronnée par les fées et a été écrit par le chevalier de Mailly, qui est en fait un galant du XVIIe siècle et même un pré-féministe. C'est-à-dire que dans tous les contes qu'il a écrits, notamment dans le recueil Les Illustres Fées, ce sont des fées progressistes, des fées extrêmement puissantes qui, en fait, ont investi les hautes sphères du pouvoir et qui sont les conseillères des puissants. Puisqu'avant, la fée, au Moyen-Âge, à l'Antiquité, etc., elle était plutôt... elle restait dans sa forêt. Si on prend, par exemple, le son d'une nuit d'été de Shakespeare, on a une reine des fées, une reine très puissante, mais elle vit en marge de la société. Elle vit en marge des grands centres de décision. Et à partir de la fin du XVIIe siècle... En fait, on a tout le cercle des mondaines à Versailles qui se mettent à écrire des contes sur des fées dont elles investissent leur envie de pouvoir et leur envie de progresser dans la société. Et ça va donner lieu à tous ces contes révolutionnaires qui vont être très présents jusqu'à à peu près le milieu du XVIIIe siècle. Et on a même des fées qui sont en fait... des fées qui sont marraines de la nation, c'est-à-dire qui veillent au bien-être du peuple. Donc là, on a eu un exemple avec la princesse couronnée par les fées, où en fait la fée donne les moyens logistiques à la princesse en lui donnant de l'or et en lui donnant les perroquets. Elle lui donne les moyens de récupérer le royaume. Parce qu'en fait, les perroquets sont des espions. Hein. Et ça, c'est un truc qu'on trouve relativement souvent dans les contes, où la fée préside au service secret. Et d'ailleurs, souvent, on appelle la fée, au XVIIIe siècle, l'intelligence. Et l'intelligence, c'est l'intelligence économique, l'intelligence... Et ça, ça fait référence au service secret. On a des fées qui défendent la nation. Par exemple, on a l'île inaccessible aussi du chevalier de Mailly, où en fait, la fée nimbe l'île d'un voile obscur pour éviter que les ennemis puissent accoster sur cette île. Et au contraire, quand quelqu'un est bienvenu, elle place deux diamants monumentaux en haut d'un rocher pour pouvoir faire venir les personnes qui sont autorisées à venir dans l'île. Donc voilà, au niveau des fées révolutionnaires. On a aussi une fée révolutionnaire qui est vraiment... c'est peut-être la plus importante, c'est celle de, d'un conte qui s'appelle La Bonne Petite Souris, qui a été écrit par Madame Donnoy. Donc Madame Donnoy, c'est la reine des conteuses à Versailles. C'est une femme qui a eu une vie extrêmement sulfureuse, qui a participé à un procès contre son mari pour qu'il puisse être accusé du crime de lèse-majesté. Et le crime de lèse-majesté, c'est passible en fait de guillotine. Hein. Donc... bon, malheureusement, elle n'a pas réussi à faire. Enfin, malheureusement pour elle, et heureusement pour lui, elle n'a pas réussi à faire aboutir ce procès. Et donc, elle a été obligée de s'exiler pendant une dizaine d'années avec sa mère, qui était complice. Elle a été obligée de s'exiler en Espagne, en Angleterre, et puis ensuite, elle est revenue. Donc, Madame Dolnoy a écrit beaucoup de contes où les fées aident les princesses à avoir un mariage d'amour. Voilà, et à ne pas se marier pour allier des couronnes entre elles, par exemple. Et donc, dans ce conte, la bonne petite souris, elle provoque le régicide. La fée provoque le régicide. Elle ne tue pas le roi elle-même, mais elle organise tout. Et surtout, elle va au-devant du peuple. Elle devance même la reine, pour nommer la nouvelle, voilà, la nouvelle reine. Et ben, j'ai un petit passage là-dessus qui est assez explicite. Donc la fée dit à la princesse qu'elle va élire reine. Elle lui dit, bon, ne nous amusons point, il faut faire un coup d'état. Allons dans la grande salle du château haranguer le peuple. Et là, la fée, en fait, marche la première, et c'est la princesse est derrière elle. Donc elle marcha la première avec un visage grave et sérieux. Elle dit au sujet du méchant roi qu'elle voulait leur donner pour reine la fille du roi joyeux qu'il voyait, qu'il vivrait content sous son empire, qu'il l'acceptasse, qu'elle lui chercherait un époux aussi parfait qu'elle, qui rirait toujours et qui chasserait la mélancolie de tous les cœurs. À ces mots, chacun cria « Oui, oui, nous le voulons bien, il y a trop longtemps que nous sommes tristes et misérables. » Donc voilà, la fée a fait un coup d'état. Quoi. Donc,
c'était une fée. on a des faits qui sont très politiques. Je vais passer la parole à Marie-Charlotte. Est-ce que dans les contes et folklore, on a des faits qui sont aussi révolutionnaires, aussi durs?
Alors, je ne peux pas répondre comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des faits qui sont méchantes, il y a des faits qui tuent, mais elles tuent parce qu'elles sont passées par une couche de christianisation et de satanisation. Voilà, c'est-à-dire que moi, je ne travaille que sur des croyances populaires. Donc, ces croyances populaires, elles ont subi énormément de pollution. La pollution du livre, la pollution des contes de fées, la pollution de la satanisation et de la christianisation du peuple, etc. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon, après, je vais aborder la suite.
Bah, j'ai plein de questions, mais si vous avez aussi des questions... Bah, normalement, on a prévu une masse de questions après, mais si vous avez des questions pendantes, vous allez trop aussi poser des questions. Parce qu'après tout, on se connaît quasiment tous, c'est un petit peu dommage quand même. Oui, donc, parlons des faits du folklore. Tu me disais en amont que tu travaillais sur un concept de fait appliqué à toute une série de personnages, c'est ça? On retrouve des caractéristiques féeriques dans plein de personnages?
C'est-à-dire que le personnage de la fée est un personnage tout à fait syncrétique dans lequel viennent s'agglutiner toute une série de divinités, toute une série de pratiques, de rites, de rites très très anciens, puisque je travaille à l'heure actuelle sur à la fois sur le néolithique, puisque les fées sont liées à énormément de mégalithes. Mais aussi sur le paléolithique, puisque les préhistoriens sont en train d'amener sous l'égide de Jean-Clotte, le conservateur de la grotte Chauvet, une théorie tout à fait révolutionnaire sur l'art pariétal et le chamanisme. Voilà. Et partant du principe que le système nerveux existe avec l'homme, c'est-à-dire au début du paléolithique, existe avec l'homme et que tous les mammifères peuvent avoir des hallucinations. Donc les dessins qu'on trouve dans les grottes, etc., seraient liés au chamanisme. Or, on retrouve, par exemple, dans des histoires de fées du XIXe siècle, moi je travaille à partir du XIXe siècle. Je constitue un corpus sur une aire culturelle bien déterminée, qui est grosso modo, on va dire, la France, c'est-à-dire une partie des trois Gaules et l'Armorique. Voilà. Et donc, et c'est déjà un territoire suffisamment, suffisamment important. Donc un territoire qui a eu le 19e siècle, des collecteurs, un matériau, le seul matériau dont nous disposons aujourd'hui qui soit aussi complet, aussi riche, aussi homogène, mais en même temps un matériau très tardif qu'il va falloir dépoussiérer. C'est-à-dire, comme l'archéologue avec son pinceau, il va falloir enlever différentes couches pour retrouver à travers des histoires excessivement fictionnalisées, comme on a pu en entendre, ou satanisées, pour retrouver des éléments que nous allons pouvoir rattacher à des divinités. Alors bien sûr, à des divinités romaines sur ce territoire, mais aussi essentiellement à des déesses mères et à des divinités gauloises, bien qu'on ne sache pas grand-chose des divinités gauloises. Ces 30 dernières années, on a quand même eu énormément de documents liés à l'épigraphie, beaucoup de citations sur des autels votifs, etc. Et puis, eh bien, voilà, petit à petit, je passe la couche de la christianisation aussi pour enlever toutes les scories qui ont été rajoutées, donc y compris celles des fées qui tuent, des fées qui vont être associées aux sorcières, et en particulier pendant toute la période des démonologues, qui eux, bizarrement, ne parlent pas des fées. Il n'y a que Jean Vierre qui cite les Sibylles blanches d'Allemagne. Et puis, voilà, petit à petit, on arrive à retrouver des croyances et à remonter loin dans le temps pour trouver des éléments qui vont se rattacher à ce personnage de fée qui est une grosse boîte dans laquelle on a mis n'importe quoi. Alors, pour en finir, au XIXe siècle, on a quatre grandes familles de fées. On a des fées qui sont liées au destin, hein, des fées tutélaires, des fées marraines, par exemple. Guillaume de Gélonne raconte que Guillaume, donc c'est le Guillaume d'Orange, le Guillaume au Cournet, raconte, c'est un contemporain de Charlemagne, c'est son cousin, que par exemple, quand il est né, sa mère et les femmes ont mis le couvert pour les fées, et ça c'est une tradition qui se poursuit encore au 19e, dans les Pyrénées en particulier avec les blanquettes, et on met le couvert pour les fées la veille du Nouvel An, etc. Donc nous avons ces fées-là liées au destin, nous avons des fées qui sont liées au culte de la nature. Hein, il y avait, et depuis un temps immémorial semble-t-il, trois grands cultes naturistes qui sont le culte des pierres, le culte des eaux, le culte des arbres. Et donc on retrouve énormément de fées aquatiques, dont les sirènes, qui ne sont pas forcément avec un appendice caudal de poisson, puisque ça c'est plus l'animal qui sera des bestiaires. Nous trouvons aussi des fées sylvestres, et puis un lien très fort avec les pierres, puisque les fées du folklore sont des fées bâtisseuses, qui y compris bâtissent des églises, qui vivent dans la pierre. Donc on a ces fées liées au culte de la nature. On a une autre famille de fées qui sont des fées topiques, qui correspondent, alors topique, topos le lieu, qui sont attachées à des lieux. Nous savons que les Gaulois, les Celtes en général, mais les Gaulois en particulier, avaient donné un nom à tout un tas de lieux. Hein. Donc ces fées sont attachées à des lieux dangereux. Alors qu'est-ce que c'est un lieu dangereux? C'est une montagne, c'est une lande, c'est un lieu désertique et c'est une frontière. Tout ce qui fait frontière est un lieu dangereux. Les croix dans les carrefours ont été installées pour justement christianiser des lieux dangereux, par exemple. Mais tout ce qui est frontière est dangereux. Voilà, donc on a tout ce qu'il y avait. Et puis nous avons aussi des familles, des fées qui sont attachées à des familles en particulier. C'est le cas de Mélusine, mais aussi de d'autres fées qui sont des fées de lignée, c'est-à-dire que ça faisait genre à l'époque d'avoir une lignée, une fée dans sa lignée. Donc les Lusignans, par le biais de Jean d'Arras, ont pris Mélusine, qui est une fée serpente, mais c'est très fictionalisé, sauf que Mélusine est un personnage que nous ne retrouvons qu'en France, voilà, qui n'est nulle part. Et la France aussi a pour particularité d'avoir le mot « fée », c'est-à-dire d'un mot qui vient du latin, avec la racine « fat » qui renvoie au destin, Et c'est aussi le seul lieu, le seul espace où la fée est renvoyée au destin, puisque les elfes, par exemple, ne renvoient pas au destin. Or, ils ont la même geste que les fées. Les Laminacs du Pays Basque, dont on a une geste complète, comme les Margaux la fée de Bretagne. Voilà. Mais nous avons, nous, un mot très marqué par les Gallo-Romains, en fait, en quelque sorte. Bon, voilà, c'était un peu long, pardon. Mais j'ai fini.
Voilà, merci. Non, simplement, on a parlé, alors on a évoqué le mot, c'est-à-dire Mélusine. Or, il y a deux grandes figures de fées, il y a Mélusine et Morgane. Est-ce que l'une de vous deux peut nous expliquer un peu les différences, les caractéristiques?
Alors, bah, effectivement, Mélusine et Morgane, elles sont ces deux fées très connues, ça résonne vraiment aux oreilles de tous. Elles ont surtout été opposées, en fait. À partir du Moyen-Âge, elles apparaissent dans beaucoup de récits. Elles sont opposées dans la mesure où elles vont véhiculer, alors là, je vais éviter d'être trop technique, mais une structure de récit complètement différente. Donc ça, c'est une perspective très littéraire. Mais en gros, pourquoi est-ce qu'elles sont opposées? Parce que Morgane, c'est le type de la fée, ça va devenir un type en fait de fée, c'est le type de la fée ravisseuse d'hommes. C'est-à-dire, pour schématiser, celle qui va enlever le mortel et le faire venir dans son territoire. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Audrey en parlant des fées qui étaient la plupart du temps hors du monde, dans cet autre monde qu'on appelle, enfin tel qu'on nomme souvent le territoire des fées. Et du coup, Morgane et les fées qui se rattachent à ce type de personnage sont... Enfin, Morgane et ses fées sont des fées qui sont liées à la notion de transgression. Puisque le chevalier, en faisant un petit peu une caricature, mais le chevalier qui quitte la société féodale pour aller se perdre dans les bras de cette fée ravisseuse d'hommes, fatale, etc., va... oublier ses fonctions justement donc de chevalier et les fonctions qui lui sont attribuées dans cette société féodale. À l'opposé, on va avoir Mélusine, dont on parlait, qui, elle, va faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elle va venir du monde des fées, de cet autre monde, pour s'insérer au sein de la société. Et c'est une fée bâtisseuse. C'est une fée qui va faire preuve donc d'une extrême fécondité et qui va être attachée donc comme on disait à la lignée des Lusignan. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de pouvoir, pour le coup, Mélusine, sans être une fée révolutionnaire, puisqu'il ne s'agit pas de ça, c'est peut-être un des premiers modèles de fée en littérature qui est lié à la notion de pouvoir, puisqu'elle va attribuer. Et grâce à elle, cette lignée des Lusignan va pouvoir étendre son pouvoir et son territoire. Puisqu'à chaque naissance, un château est créé, etc. Donc au fur et à mesure de la fécondité de Mélusine, en fait, on a une extension du territoire de la famille. Voilà.
Pour l'époque, elles sont vraiment presque révolutionnaires. Enfin, elles prennent le pouvoir pour de vrai. On est à milieu de l'image de la femme au Moyen-Âge, quoi.
On est à milieu de... Bah, on... Non.
Ah, voilà un débat.
Non, non, mais la femme au Moyen-Âge, on est revenu sur l'image de la femme au Moyen-Âge. Elle a, d'abord, la femme au Moyen-Âge, la femme en Occitanie, par exemple, détient le pouvoir au Moyen-Âge, y compris dans tous les territoires wisigoths, elle garde un droit d'héritage, c'est-à-dire que c'est l'aîné qui hérite, et... si c'est une femme, c'est la femme qui hérite. Donc non, je pense que la fée au Moyen-Âge, la femme au Moyen-Âge, c'est pas l'esclave, c'est pas la servante, c'est pas... Non, pas du tout. Après que les fées... Bon, elles ont du pouvoir, bien sûr qu'elles ont du pouvoir. Dans le folklore, de toute façon, les fées sont des sortes de divinités. Donc encore au XIXe siècle, on leur apporte des offrandes. Donc, évidemment, on vient leur demander un pouvoir, comme on va demander un pouvoir à une sainte du calendrier, puisque ce sont les saintes du calendrier qui les ont remplacées la plupart du temps dans les fontaines. Mais juste un mot sur Mélusine, parce que ce qui est une des caractéristiques aussi des fées d'eau, c'est que ce sont les seules qui épousent des hommes. Voilà. Les fées terrestres vivent en tribu. Oui, j'ai oublié, c'est une autre famille de fées, les tribus, qui vraisemblablement ne renvoient pas à des divinités, mais à des magiciennes ou à des chamanes tels que d'ailleurs quelques écrivains romains et grecs les ont évoqués. Donc, ce ne sont que les fées liées à l'eau qui épousent des hommes. Donc, Mélusine est une fée d'eau, bien entendu. Mais il y en a d'autres, il y a tout un tas d'histoires, un petit peu comme Mélusine. Et Morgane, elle, est inconnue du folklore, puisqu'en fait, elle arrive avec tous les romans d'Arthur, c'est-à-dire toute cette littérature qui, à partir du XIIe siècle, est écrite par des clercs. Parce que tout ce qu'on va savoir des Celtes qui n'ont pas de culture écrite nous vient par le biais des clercs. Mais par contre, nous avons en Bretagne les Marie Morgane, qui sont des sirènes. Voilà.
Et sinon, Marie-Charles, je voulais te demander, parce que nous, dans toutes les fées qu'on a rencontrées, c'est seulement Mélusine qui donne naissance à des enfants. Moi, je n'ai jamais rencontré de fées fécondes, ni dans le 17e, ni dans le 18e. Et je me demandais si dans le folklore, il y avait des fées mères, en fait.
Alors, il y a des fées mères et il y a des fétaux, des petits bébés fées. Et oui. Alors, il y a des fées. Seules les tribus de fées donnent naissance à des enfants. Les gens qui rapportent ces histoires pensent qu'il y a des mâles dans ces tribus. On a trois grandes tribus de fées dont on connaît très très bien la geste, je vous l'ai dit, deux en Bretagne et une dans le Pays Basque. Ils sont terriblement absents, on en parle vraiment de temps en temps comme ça. Il y a même un fée, et un seul fée qui est connu en Normandie, qui est un homme fée, qui est le... voilà. Donc ils ont des enfants, et y compris une grande pratique en Europe des fées, c'est le changelin, ce qu'on appelle chez nous le changelin. C'est-à-dire qu'ils prennent l'enfant, ils prennent un bébé et ils mettent à la place un petit enfant à eux. Alors un petit enfant évidemment très satanisé, hein, moche, poilu, difforme, comme un vieillard, enfin une espèce de gnome. Et pour pouvoir récupérer cet enfant, parce que ce sont les rites, ce sont dans les récits qu'on a au XIXe siècle, il faut balayer tout ce qui est narration et prendre tout ce qui est de l'ordre du rituel et du détail. Parce que ça a passé les siècles, le reste non. Mais ça a passé les siècles et peut-être les millénaires. Et donc, il faut le battre. Et alors on reconnaît toujours un petit fée parce que on met des coquilles d'œufs sur le feu. Et il dit, j'ai bientôt 1000 ans et je n'ai jamais vu autant de petits pots bouillants. Et donc on met de l'eau dans la... Et je pense, enfin je travaille là-dessus parce que je pense que il y a un retournement probablement de rites assez significatif. Pareil pour les fées, on leur amène, par exemple, on leur amène dans pas mal de pays de France. Alors, pays, c'est les cantons, quoi, les anciens cantons. On leur amène du lin, par exemple, et on retrouve le lendemain le lin tissé. Et on est là dans un cas très courant de retournement de rituel, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on n'amène pas le lin, etc., mais évidemment, on amenait des morceaux de tissu en offrande aux fées. Voilà. Et les gens qui ont vu des morceaux de tissu, après, ont retourné petit à petit les trois générations suffisent pour oublier quelque chose. Et moi, je travaille aussi en parallèle sur l'effet croque-mitaine, parce qu'on a, avec l'apparition du croque-mitaine, la fin d'une croyance. C'est-à-dire, on connaît le personnage, la légende est suffisamment vivace pour que les enfants, puisque les croque-mitaines sont là pour permettre aux enfants, on en a plusieurs centaines en France, hein, permettre aux enfants de ne pas se noyer, de ne pas... voilà. Alors, ils connaissent le personnage, mais évidemment, les adultes n'y croient plus.
Alors, on a vu pas mal de types de fées. Il y a aussi d'autres types de fées. On parlera des fées libertines juste après. Peut-être les fées marraines, s'arrêter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une fée marraine ?
Alors, une fée marraine, évidemment, c'est d'abord la fée qui se penche au-dessus du berceau d'un nouveau-né. Donc, tout simplement, celle qui va attribuer des dons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, on lit ça à une bienveillance, à quelque chose de positif, à des dons positifs, hein, évidemment. Ça semble être évident. Et en fait, on se rend compte très vite qu'il y a des mauvaises marraines, ce qu'on a appelé oui, c'est le type Carabosse, mais les méchantes fées marraines. Et il y a petit à petit un type de méchante fée marraine qui grandit à partir du Moyen-Âge et qu'on trouve au Moyen-Âge en particulier dans une pièce pour le théâtre qui s'appelle Le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle, qui est très intéressante et qui surtout est très drôle. Et dans cette pièce, j'en parle parce que c'est un bon exemple, il y a la fée Maglore. Il y a trois fées, hein. Souvent les marraines elles apparaissent par trois. Bon, c'est aussi ce fameux chiffre qui est une résurgence aussi de la triade des déesses de la destinée dans l'Antiquité. Donc les fées marraines, souvent, hop, apparaissent par trois aussi autour du berceau. Et en général, il y en a une qui est très, très, très susceptible. Et c'est le cas de Maglore qui, dans le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle, qui va tout simplement vulgairement piquer sa crise de nerfs parce qu'on n'a pas placé les couverts comme il le fallait. Donc voilà, on revient encore à ça. Et qui va carrément refuser de faire des dons et annuler les dons bénéfiques qui avaient été attribués par ces deux amies marraines. Voilà. Donc le personnage de la fée marraine, on le retrouvera évidemment dans les contes, au XVIIe, etc., il jalonne tout le parcours, mais il est encore une fois duel. Il y a la bonne fée marraine, et puis qui peut très très vite devenir d'une susceptibilité incroyable.
Il y a certains auteurs qui vont même s'en moquer par la suite des fées marraines.
Oui, ça on le retrouve.
Oui. Ben oui, au XVIIe et surtout au XVIIIe, hein, on commence à beaucoup singer les fées. Ben, la fée marraine, au XVIIIe siècle, elle apparaît surtout comme une fée extrêmement superficielle, en fait, et très matérialiste. C'est-à-dire que pour la faire venir auprès du berceau de l'enfant, il faut déjà lui envoyer beaucoup de cadeaux. Et encore, c'est pas sûr qu'elle vienne, même si on lui envoie plein de vaisselleries en argent ou de fabuleuses étoffes. C'est pas gagné. Et quand elle arrive, il faut lui offrir, en fait, un grand festin, du très bon vin pour s'attirer ses bonnes faveurs. Il faut encore lui offrir des cadeaux. Et ça ne marche pas toujours, hein. Mais on a beaucoup de parodies de la fée Carabosse, hein, la vilaine fée, par exemple dans La princesse printanière de Madame d'Aulnoy. On a donc un baptême, et bien sûr la reine oublie d'inviter Carabosse, mais Carabosse a quand même réussi à se renseigner sur le lieu du rendez-vous, sur le lieu du baptême. Et donc elle arrive, alors que tout le monde est sur son 31 et magnifiquement habillé, elle arrive dans une brouette tirée par des nains, et elle allait un bébé singe. Donc quand elle arrive, tout le monde n'ose même pas l'approcher, et on ne lui sert pas à boire ni à manger. Donc elle est très très fâchée, et elle va se nicher en fait dans le creux d'un arbre, et elle décide de tuer toutes les marraines qui sont en présence. Donc comme par hasard, tout d'un coup, l'une des marraines tombe dans un buisson épineux et se crève les yeux. Il y en a une autre qui se fait piquer par un serpent et qui meurt immédiatement. C'est très kitsch. Il y en a une troisième qui a le malheur de passer en fait sous un aigle, voilà, qui passe dans le ciel et qui lâche en fait une tortue sur elle à ce moment-là, et elle meurt assommée. Elle remettra ça à Carabosse le jour du mariage de la princesse. En fait, elle revient, elle n'est pas invitée, mais elle revient. Et elle fait passer cette fois, au moment du passage des alliances, un hibou dans le ciel qui lâche en fait une toile d'araignée sur la belle robe de la princesse. Voilà. Donc.
Méfions-nous des tortues. Il y a un autre type de fée aussi. Il n'y a pas de français très bien. C'est la fée libertine.
Oui, alors la fée libertine, qui est surtout en fait dans une vague de contes qui débute en 1734, donc au XVIIIe siècle évidemment. Alors déjà au XVIIIe, même avant 1734, on s'aperçoit que les rois dans les contes confient en fait leurs enfants aux fées pour faire leur éducation. Sauf que cette éducation, elle est à double facette, c'est-à-dire que les fées vont dispenser quelques humanités, quelques cours de philosophie. Mais elles vont surtout apprendre aux jeunes adolescents à faire l'amour, en fait, hein, et avec travaux pratiques, bien sûr, inclus. Donc il y a déjà un début de libertinage comme ça au début du XVIIIe, et ça atteint son apogée en 1745 et 1746 pour une raison simple, c'est qu'à Versailles, donc c'est à Versailles qu'on écrit les contes, hein, et à Versailles, Louis XV, en fait, durant cette période, s'en amoure de Madame de Pompadour. Et c'est une passion tumultueuse Il est fou de joie, il organise énormément de fêtes à Versailles, tout le monde fait l'amour avec tout le monde, enfin c'est vraiment une période extrêmement légère. Et du coup, bah, les contes vont s'imprégner de ça. Et en fait, on s'aperçoit que les filles les plus libertines ne sont pas les jeunes fées, mais sont ce qu'on appelle les vieilles fées lubriques. Donc les vieilles fées lubriques, ce sont les fées sur retour, très desséchées, très aigries et très perturbées par leur libido. Alors elles sont en général très puissantes aussi, c'est un peu ça le problème. Donc leur objectif, c'est bien sûr de terrasser la jeune première, par exemple en l'enfermant dans une tour, et de se taper le prince, pardon, de mettre le prince à tout prix dans son lit. Donc pour ça, elle utilise tous les stratagèmes possibles et imaginables. On a un conte de Crébillon qui s'appelle L'écumoire, où un prince résiste à la vieille fée, c'est la fée concombre, il me semble. Et du coup, elle le frappe d'impuissance une nuit, et elle transforme son sexe en écumoire. Voilà. Et donc, pour conjurer ce sort, eh bien, il doit passer sa nuit avec la vieille fée concombre. Donc c'est absolument horrible, il est obligé de prendre, je cite, une eau de santé pour pouvoir assurer. Et donc la nuit qui nous est décrite est extrêmement, quasiment pornographique, hein, c'est-à-dire que la vieille fée lubrique a une libido vraiment très, très poussée, elle l'insulte, il y a de la violence, enfin c'est absolument, c'est de la pornographie, enfin on arrive vraiment dans de la pornographie. Et quand la vieille fée lubrique n'arrive pas à mettre le prince dans son lit, en général elle le punit. Alors soit elle le transforme par exemple en bidet, ou alors on a des exemples où elle le transforme en baignoire dans laquelle elle ne manque pas évidemment de se baigner. On a aussi dans un conte qui s'appelle Le canapé couleur de feu de Fougeret de Montbron, qui est l'un des rares à avoir écrit un conte libertin et avoir déclaré son identité, en fait. Parce que la plupart des contes, là, dont je vous parle, sont anonymes. Et donc, voilà, le prince lui résiste, et elle décide de le transformer en sofa pour que, j'essaie de me souvenir de ce qu'elle lui a dit, pour que tu gémisses sur toutes les secousses que tu devras subir. Puisqu'évidemment, sur ce sofa, il y a énormément de débats. Le sofa passe de maison en maison et atterrit même à la fin dans une maison close. Alors, il y a toute une critique sociale en parallèle. C'est-à-dire que dans cette maison close, en fait, il y a des prêtres qui viennent avec des petits-enfants, etc. Donc, on a tout le descriptif. Tout le descriptif, voilà. Et ça, c'est quelque chose quand même qui a atteint son apogée au milieu du XVIIIe siècle. Mais après, ça va s'évanouir, hein. Au 19e, on n'a pas vraiment de fées libertines. C'est vraiment propre au 18e, quoi.
Marie-Charlotte, t'as trouvé des fées aussi libertines
dans le folklore? Je ne sais pas si...
Alors, dans le folklore, nous avons des fées séductrices. Voilà. Et deux familles en particulier, une qui sont les Dames Vertes des Vosges et de la Franche-Comté, qui se transforment en belle jeune femme pour séduire au coin d'un bois. Donc, dames vertes sont des fées sylvestres, hein, qui sont d'ailleurs comme les femmes vertes d'Allemagne. Et donc, qui séduisent les jeunes gens au coin d'un bois, et puis dès qu'elles les ont séduits, eh bien, elles redeviennent laides et vieilles. Donc, on voit qu'il y a là un passage du clergé, bien entendu, et de cette volonté de transformer les fées en sorcières. Et puis, un autre exemple qui est très intéressant, enfin, pour moi, dans le cadre de mon étude, qui sont les matres ou les martes, ou les martres, il y a trois noms, du Berry. Parce que ces fées ont la poitrine qui leur tombe sur les genoux, et elles poursuivent les hommes, et en les poursuivant, elles balancent leurs mamelles dans le dos, voilà, pour pouvoir avancer. Et donc ces fées sont très intéressantes parce que nous avons une infinité en France de petites déesses-mères gauloises allaitant des enfants. Vous en avez peut-être déjà vu, de ces déesses-mères qui ont un enfant sous chaque sein, et donc le sein qui tombe vers l'enfant. que dans l'épigraphie, la plupart des les pierres votives dédiées aux déesses mères, on les appelle les mères, on les appelle les matres, ce sont les matrones, c'est ce qui donnera après le nom de matrone. Et donc là, on a sans aucun doute une déviance de la croyance aux déesses mères, d'autant plus qu'il y a des sites, puisque moi, dès que j'ai une fée particulière dans une région, évidemment, je regarde dans le canton où il y a l'histoire de fée, quelle trouvaille archéologique on a pu à mettre à jour, s'il y a une histoire particulière, etc., comment est le blason, enfin bref. Et généralement, effectivement, on retrouve des sites, la plupart du temps, là où on a les légendes de fées, comme ça, on retrouve des sites où on avait un matériau archéologique important. Donc il y a ces deux... Alors après, il y a des petites histoires qui sont très fictionnalisées. Mais ces deux exemples-là, oui, sont des exemples d'un côté... cette satanisation, ce passage de la fée à la sorcière, puisqu'elle est forcément démone, puisque les fées sont invisibles, hein, la plupart du temps, donc elles peuplent le ciel, et qu'est-ce qui peuple le ciel? Les démons, hein, donc les esprits démons. Et puis ça, alors par contre, qui est très très intéressant, parce que ça renvoie à cette croyance gauloise.
Alors, on l'a vu, il y a plusieurs types de fées, il y a quelqu'un qui s'est intéressé, c'est Freud. Poser la question à Virginie un petit peu, pourquoi est-ce qu'il s'intéressait à cette figure-là et qu'est-ce qu'il y a vu très exactement?
Alors effectivement il y a Freud mais il y a aussi Jung, voilà. Donc et puis après dans la lignée on va avoir aussi d'autres ouais, et puis enfin oui, donc bref, la psychanalyse commence à s'intéresser évidemment, enfin passe aussi en revue le merveilleux, et à travers le merveilleux va passer aussi les faits un petit peu en revue. Mais alors pour Freud et Jung, les deux écrits en fait sur lesquels on s'est appuyé, c'est avant tout un écrit de Freud sur le motif des trois coffrets. Donc ça c'est publié dans l'inquiétante étrangeté et autres essais. Et en fait là dans le motif des trois coffrets, pourquoi ça nous intéresse et pourquoi c'est lié aux faits, parce que à travers l'idée de la triade, il va traiter donc de la triade des déesses de la destinée, et ensuite de tous ces avatars. En fait, dans la littérature, on retrouve, donc, on en parlait tout à l'heure, très souvent le chiffre de trois, trois femmes, trois fées, trois marraines, etc. Et donc, ce qu'il nous dit dans cet écrit, en gros, et ce qui nous intéresse, nous, par rapport à nos fées, c'est que... il voit dans l'écriture et dans la réapparition de ce motif littéraire et de cette triade féminine, la volonté, en fait, c'est assez complexe, hein, on va essayer de simplifier, mais la volonté de l'homme d'apprivoiser une image de la mort, en fait. Parce qu'à travers ces trois fées ou trois résurgences des trois déesses de la destinée, dedans, on va avoir toujours... une femme qui va représenter, en gros, une fée qui va représenter la naissance, donc la naissance de la vie, etc. Ensuite, la deuxième, c'est celle qui tire le fil, donc qui va écrire finalement l'histoire du héros ou de l'homme, du mortel. Et ensuite, la dernière, qui est nommée, entre autres, Atropos, qui est la déesse de la mort, qui coupe le fil. Et en fait, ce que Freud observe dans la plupart des récits, c'est que dès qu'un héros, dès qu'un mortel est confronté à un choix entre trois femmes, il va systématiquement se tourner vers la troisième femme, c'est-à-dire choisir sur un plan amoureux, ou enfin narratif et souvent amoureux, cette troisième femme qui est l'incarnation de la mort. Et Freud voit là-dedans une sorte de volonté inconsciente de l'homme d'apprivoiser l'inéluctable, d'apprivoiser la mort, en maquillant derrière l'illusion d'un choix, en fait, son incapacité totale, évidemment, à pouvoir maîtriser cette fin inéluctable. C'est la lecture, c'est la lecture de Freud. Voilà. Donc nous, ça, nous, on n'adhère pas forcément non plus à cette lecture. En tout cas, on expose les théories. Après, de l'autre côté, Jung, il s'est intéressé aussi à l'image de la fileuse. Donc comme nous, on a repris ça, puisque effectivement, la fileuse, c'est une des une des mères des fées. Tu peux peut-être parler un petit peu de...
Ouais. Alors Jung, c'est pas facile de résumer sa pensée, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que à travers le personnage de la fileuse, lui, il voit en fait la métaphore de nos ancêtres, en fait.
de nos ancêtres et aussi de notre mère, de notre grand-mère, puisqu'il dit qu'en fait, il y a quelqu'un à notre naissance qui nous programme, il y a quelqu'un qui imagine des choses pour nous, il y a quelqu'un qui plus ou moins consciemment tisse les fils de notre destin. Et le problème qui peut se poser justement, c'est que si la personne en question n'est pas déjà relativement équilibrée ou si elle fait des vœux qui ne sont pas forcément positifs, ça peut entacher la construction en fait de la personne. Je crois qu'il y a une citation qui peut être assez éclairante là-dessus. Ce qu'il dit, c'est que auprès de chaque berceau se tient une fileuse qui étire les fils du destin, car il est presque impossible à quiconque de se développer positivement si quelqu'un n'a d'abord cru qu'il en était capable. Ses souhaits maternels entourent invisiblement l'enfant, ils forment comme un pont qui le conduit vers la vie.
Voilà. Alors, on a fait un petit peu le tour, hein, le temps passe, le temps file. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? C'est bon. Vas-y Thomas.
C'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est une des premières choses que j'avais dit, c'est qu'il n'y a pas l'effet clochette. Et en fait, c'est vrai, d'une certaine façon, on voit, moi ce qui m'a toujours frappé, c'est souvent une imagerie, bon bah, la fée, c'est la fée clochette, maintenant l'ordre, ça y est, c'est tout de suite un gros machin vert qui se balade avec un âne qui raconte des âneries. Tout comme le vampire, c'est Dracula, le de Stoker, plus ce qu'il y a dans les films, alors que quand on regarde le forum folklore vampirique, les régions du monde possibles et imaginables, il y a beaucoup plus de richesses. Est-ce que c'est pas une des grandes thématiques qu'on a utilisées, c'est un peu la fin de cet ancien monde, de ce monde de féerie, de ce monde des écoles imaginaires? Est-ce que c'est pas un peu, en leur figeant l'image comme ça des grands mythes, est-ce que c'est pas vraiment le garder tout dans le cercueil, quoi?
Je vais citer Lévi-Strauss. Le propre d'un mythe, c'est d'être décliné. C'est-à-dire toutes les déclinaisons constituent le mythe. Ensuite, il y a un substrat, effectivement, qui va rester toujours le même. Enfin, on va pouvoir ramener le mythe à quelque chose. Mais voilà, c'est déformé. Chaque époque a interprété le personnage de la fée, mais d'autres personnages aussi, avec le matériau qu'il avait. Je suppose que les chasseurs-cueilleurs du paléolithique n'avaient forcément pas le même type d'interprétation que les premiers éleveurs cultivateurs du néolithique, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que chaque époque, avec le bagage qu'elle a culturel et social et l'environnement, etc., va avoir son interprétation. À partir du moment où la fée passe dans le domaine du conte, voilà, on est parti vers autre chose. Pour moi, ce sont des pollutions supplémentaires, mais bon.
Oui, puis après, on partait de la fée clochette pour justement dire, bah, effectivement, il n'y a pas que ça. Mais, et là, pour donner un exemple concret, dans la sphère théâtrale, nous, on a vu, et on en parle un petit peu dans le guide, on a vu l'année dernière une pièce qui s'appelle Les Fées de David Bobet, et qui est un auteur et un metteur en scène de grand talent. Et dedans, en fait, on a une vision des fées qui est alors très très loin de la fée clochette et vraiment très contemporaine, puisque c'est une pièce qui a été écrite il y a 2 ans. On a des fées qui sont en fait une image de la psyché du héros. On a un héros sur scène qui est pris dans des interrogations personnelles et métaphysiques, et vraiment donc aussi en résonance avec la société de consommation, etc. Et il y a toujours sur scène auprès de lui deux personnages féminins qui sont nommés fées et qui débattent et qui donnent à entendre le discours, le cœur, c'est absolument passionnant et la mise en scène est extraordinaire. Et donc là, bon, on est très loin, enfin on est encore sur d'autres territoires, d'autres formes de la fée clochette. Voilà, il y a de l'espoir, quoi.
Et bien plus adulte.
Et bien plus adulte.
Ouais. Pierre, t'as une question ?
Oui, en fait, j'en ai deux. La première, c'était, vous avez parlé tout à l'heure de deux figures de la fée Moyen-Âge, donc Mélusine et Morgane. Viviane, qu'en est-il ? dans la littérature arthurienne, quelle place elle prend, est-ce qu'elle est importante, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à Morgane?
Alors, merci Pierre. Alors, Viviane, voilà.
Une autre question aussi.
Elle est ravisseuse, elle aussi, mais alors pour le coup, bon, la première image de Viviane, c'est la ravisseuse d'enfant, pour le coup, puisque c'est elle qui va enlever Lancelot et qui va l'élever. Donc, c'est d'abord la bonne dame du lac. Ce qui est intéressant chez Viviane, c'est qu'elle concentre les deux aspects caricaturalement antinomique entre Mélusine et Morgane, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais elle est donc avant tout, elle est d'abord connue comme la bonne dame du lac, et ensuite elle va réapparaître sous un jour beaucoup plus sulfureux, puisque c'est elle qui va mener Merlin à sa perte, etc., en le tuant à coups de cercle magique, etc., en retournant l'enseignement l'enseignement transmis contre lui, donc terrible. Donc pour moi, elle est intéressante parce que justement, bah, voilà, au fur et à mesure de la construction de ce personnage en littérature, elle passe par des pôles complètement différents. Donc moi, je te répondrai là-dessus. Voilà.
Et la deuxième question, c'est pour Marie-Charlotte. Tu parlais du fait que Morgane n'apparaît pas dans le folklore populaire. J'ai entendu parler d'un conte, alors je sais pas, j'ai entendu parler d'un conte aussi bien ta mère en Bretagne, on parle d'une fée Morgane.
Alors, la Morgane n'apparaît pas dans les croyances populaires. Or, il ne s'agit pas de contes. Les contes sont des formes extrêmement polluées pour moi. Donc, je ne m'y attache pas. Je m'intéresse à ce qu'on appelle des mémoras, qui sont des formes de contes, qui sont les petites histoires qu'on raconte à la veillée de Madame Intel qui a vu le fantôme, machin, ou qui a vu la fée, etc. Et puis qui, de génération en génération, vont, au gré des conteurs, parce qu'ils ne sont pas là, les conteurs, évidemment, pour maintenir une mémoire, ils sont là pour faire œuvre de littérature orale, même s'ils n'en ont pas conscience. Donc, dès qu'ils ont sous la main un petit almanach ou un petit livret de la Bibliothèque Bleue qui raconte un conte de Perrault, immédiatement, ils vont prendre ce qu'il y a dedans, au fur et à mesure, et puis ils vont en rajouter, et puis ils vont mélanger les contes entre eux, etc. Donc, mais il y a du mémora. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, c'était Madame Machin a vu une fée, etc. Il y a du mémora. Donc, dans ce mémora, dans un mémora qui est encore très vivant, puisqu'on a encore des offrandes, en particulier, là, j'ai un petit peu de pub, là, je publie en octobre un livre sur l'histoire et sur les secrets de la magie amoureuse. Et autour de la magie amoureuse, on voit bien qu'encore au XIXe siècle, les femmes, dans le cadre de fécondité, dans le cadre de recherche du mari, c'est très important parce que sinon on reste à la maison, on vieillit et on sert la famille, font encore des offrandes. Donc voilà, c'est encore assez vivant dans le peuple, mais on a ces Marie Morgane, on a des Morganesses, mais qui sont des hommes, qui ressemblent à des hommes marins, comme les Laminac d'ailleurs au Pays Basque, qui sont à la fois des hommes et des femmes fées.
Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question?
Oui. Moi, je vais poser une question plutôt dans le contexte de la tradition littéraire. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu vague, mais dans quelle mesure les différents contextes historiques ont influencé l'écriture de la fée? C'est-à-dire, on parle de la fée libertine, est-ce que derrière il y a une dénonciation, ou au contraire, ou alors au Moyen-Âge, on sait très bien que le statut de la femme était plutôt en bon état, mais est-ce que justement, à travers la littérature de la fée, on trouve des parallèles, voilà.
Ben, par exemple, au XVIIIe siècle, bon, on sait, il y a l'ombre de la Révolution qui plane. Et on s'aperçoit que progressivement, les femmes délaissent un petit peu les contes et délaissent justement la construction de personnages de fées très puissantes et très bienveillantes. Et en fait, ce sont les hommes qui reprennent le flambeau. Donc il y a Diderot, il y a Rousseau, etc. Et eux, bon, ils sont évidemment du côté de la Révolution. Et si tu veux... ils vont créer des personnages de fées qui vont parodier, en fait. Il va parodier la fée, et par extension, les mondaines, puisque ben, les fées sont le miroir des mondaines. Et donc, ils vont parodier, par exemple, leur côté dépensier, puisque les fées, toujours, il faut qu'elles portent les plus belles robes, qu'elles aient les plus belles chaussures, etc. Et elles dépensent énormément d'argent. Et ça, ça ne plaît pas du tout aux hommes, évidemment. Donc ils vont les parodier, voilà, dans les contes. Et ils vont même aller jusqu'à se passer d'elles. On a, par exemple, un conte de Diderot qui s'appelle « Les bijoux indiscrets », où il y a la naissance d'un enfant, l'enfant d'un roi. Et le narrateur dit « Mais on n'appellera pas la fée, parce que les fées, de toute façon, elles ne servent à rien. Leurs dons, de toute façon, ont de très mauvaises conséquences. » Donc là, il cite plein de monarques qui sont morts, soi-disant, à cause des fées. C'est absolument faux, c'est de la mauvaise foi, mais c'est comme ça. Et on s'aperçoit que les fées, donc ça c'est dans la deuxième moitié évidemment du XVIIIe siècle, les fées quittent le palais. Elles sont quasiment extradées en fait, et elles habitent, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, elles habitent dans des palais qui appartiennent dans des pays qu'on ne situe même plus sur de vieilles cartes. Donc elles sont extradées, elles sont exilées en fait. Donc tu vois ça.
Toujours sur le même mode, au Moyen-Âge, dans la pièce dont je parlais tout à l'heure, là, le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle, on a un petit peu le même système. Les fées vont par extension être un moyen pour l'auteur, sur le mode comique, d'effectuer une critique sociale sur l'embourgeoisement. Donc on le retrouve vraiment. Donc on a toute la petite société de la bonne bourgeoisie d'Arras médiévale qui est passée au crible à travers les personnages féeriques. Entre autres, pas seulement, mais aussi à travers les personnages féeriques.
Une dernière question.
Est-ce que vous savez s'il y a encore des régions où les croyances actuellement perdurent assez fortement ? Enfin, moi, je sais qu'il y a des gens qui écrivent, qui recherchent vraiment, plutôt dans les sphères ésotériques, évidemment, mais dans des régions avec des grandes forêts, avec des choses plutôt sur le plan vibratoire, qui recherchent le radiesthésique, etc. qui recherchent justement des régions où il pourrait y avoir encore des entités, parce que vous en avez entendu parler.
Oui, oui, bien sûr. Oui, j'en ai entendu parler, j'ai rencontré ces gens, j'ai eu la chance de participer aux rencontres internationales de chamanisme il y a 4 ans maintenant, et donc de travailler avec 5 grands chamans de continents différents. Tous parlaient effectivement de ces entités que nous appelons fées, lutins, que nous rassemblons maintenant dans un espèce de truc qu'on appelle le petit peuple, alors que les uns n'ont rien à voir avec les autres, mais et qui effectivement disaient travailler avec les entités de la nature. Et il y a maintenant très très longtemps de cela, je ne vous dirai pas le nombre d'années, j'animais une émission de radio qui s'appelait Les Chemins de l'étrange, et je recevais des personnalités du monde de l'occulte, et donc j'ai reçu un médium excessivement étonnant qui avait participé aux expériences de culture avec les esprits de la nature, ces expériences qui ont été faites en Islande, où on a fait pousser des melons, des roses sous la neige, etc. Voilà, donc et j'ai rencontré pas mal de personnes qui travaillent sur les cristaux, par exemple, qui disent rencontrer des entités, qui en ont vu autour de moi. Voilà, alors après voilà, hein, c'est-à-dire qu'après c'est, nous rentrons dans le domaine de la croyance individuelle, et nous rentrons, moi ce qui m'intéresse c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ce qui m'intéresse c'est toujours la troisième solution entre croire et ne pas croire. Je pense qu'il y a quelque chose au milieu, et entre la vérité et le mensonge, je pense aussi qu'il y a quelque chose au milieu. C'est toujours ce chiffre 3 qui dans l'Antiquité renvoie effectivement à la naissance, à la vie et à la mort, puisqu'on n'oppose pas la vie et la mort, mais on oppose, ce qui me semble beaucoup plus juste, la naissance à la mort. Et en même temps, ce chiffre 3 renvoie toujours à l'unité, et le christianisme lui-même a dû s'emparer de ce chiffre 3 en rajoutant le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour créer une unité. Donc il y a, alors là je suis passée d'un truc à l'autre et je ne sais plus du tout pourquoi, à quoi je répondais, je suis formidable. Mais oui, voilà, donc j'ai rencontré beaucoup de gens alors, qui travaillent, j'ai rencontré des gens qui les voient, qui voient des formes, qui voient justement des niveaux vibratoires. Sauf que avec les antennes Wi-Fi, avec les antennes de téléphone, avec l'électricité tout simplement... il est sûr que les niveaux vibratoires ont changé. Mais je peux vous dire que j'ai personnellement, chaque matin, avec l'ensemble des chamans, il y avait une ronde, parce que la ronde est aussi un procédé chamanique fort ancien pour arriver à la transe, et donc la ronde des fées, qui est un élément qu'on retrouve un petit peu partout, renvoie à ce chamanisme. Et à partir d'instruments, de tambours, d'instruments très simples, etc., il faisait monter réellement les niveaux vibratoires. C'est-à-dire que les couleurs, on était dans un parc, et les couleurs changeaient. Voilà. Tout simplement parce qu'effectivement, tout est vibration autour de nous, et qu'il faisait monter les niveaux vibratoires, et qu'il créait des champs. Voilà. Alors après. Bon.
Ah bon, moi j'ai la vibration de l'apéro qui m'appelle. On va simplement terminer et puis après on discutera, mais parce que le temps nous est compté. Pierre a un dernier compte à nous proposer pour terminer la séance, et puis après on se retrouvera au fond, vous verrez, il y a largement de quoi voir.
La vérité quand elle vieillit pour les couleurs de la légende. Mensonge du point du jour sera la vérité de demain. C'est pourquoi je vous le demande, ne cherchez pas à savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, et écoutez plutôt l'histoire de Thomas. Dans les hautes terres d'Écosse, entre le mont Ben Nevis et la vallée de la Glencoe, il est un homme du nom de Thomas. Il allait de village en village, de château en château, proposer, contre un souper et un couchage, des contes. Et lorsqu'il voulait un petit peu se reposer, lorsqu'il voulait réfléchir un petit peu et puiser l'inspiration, il montait le long du mont Ben Nevis. Là-bas, il y avait un pré avec des aubépines en fleurs. Et il allait s'asseoir sous ces aubépines. Et un beau jour où il est assis en train de rêvasser, il entreaperçoit une belle dame assise sur une jument blanche. Alors il se redresse, il ouvre les yeux, et elle est toujours là. Il se précipite vers elle. « Non, Thomas, non, ne me touche pas. Car si tu venais à me toucher, je serais obligé de t'emmener avec moi et tu ne pourrais jamais rentrer. » Mais Thomas n'a pas écouté, il a posé la main sur son genou. À ce moment-là, elle s'est transformée en vieille, toute rabougrie, toute rachétie. Elle a pris sa main crochue, elle l'a empoignée par l'épaule, elle l'a posée sur son cheval, et le cheval est parti au galop. Et le cheval a galopé, galopé, galopé pendant des jours et des nuits. Le premier jour, il s'est arrêté devant une rivière de sang. Il charriait de gros flots. Thomas ne savait pas quoi faire, alors il est resté agrippé à la vieille, et le cheval a traversé la rivière. Et lorsqu'il en est ressorti, il était tout rouge. Et puis le cheval est reparti au galop. Et il a galopé, 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 pendant des jours et des nuits. Le deuxième jour, le cheval est arrivé devant une rivière de lait, une rivière paisible. Le cheval a traversé, et lorsqu'il en est ressorti, il était redevenu aussi blanc que neige. Et le cheval est reparti au grand galop. Au bout du troisième jour, le cheval est arrivé dans un pré. Thomas est descendu du cheval, et dans ce pré, il y avait un arbre avec des fruits gorgés de soleil. Thomas avait tellement faim qu'il s'est précipité vers cet arbre. « Non, Thomas, non, ne touche pas aux fruits de cet arbre. La connaissance qu'il porte te tuerait. Mange plutôt ce qu'il y a dans ta besace. » Thomas s'est assis au pied de l'arbre, il a ouvert sa besace, il a sorti une outre de vin, du fromage et du pain, et il a commencé à manger. Tu vois, Thomas, il y a trois chemins. Le premier, pavé d'or, est un chemin qui mène vers la connaissance. Certains l'appellent le chemin du paradis. Ce deuxième, où il y a des ronces et des épines, mène vers l'enfer. Quant à ce troisième, à flanc de coteau, il mène chez moi. C'est là-bas où nous allons. Elle a repris Thomas par l'épaule, elle l'a empoigné, elle l'a posé sur son cheval et ils sont repartis. Au bout d'un moment, le cheval est entré dans une vallée luxuriante. Les arbres étaient en fleurs, le soleil brillait, on entendait les oiseaux chanter, il y avait même une rivière qui coulait le long d'une colline. Et au moment où le cheval a posé le pied dans la vallée, la belle dame a repris son apparence. Il y avait un château loin, les portes se sont ouvertes, et Thomas a vu sortir des gens. Ils faisaient la fête, ils chantaient, ils dansaient. Ils fêtaient le retour de leur belle. Et pendant 3 jours et 2 nuits, ils ont fait la fête. Thomas a participé, Thomas a chanté, Thomas a dansé. Il a même raconté des histoires de chez lui. Au bout du 4e jour, la belle est allée voir Thomas. « Thomas, il va falloir que tu rentres maintenant. Car si tu restais une journée de plus, un démon viendrait t'emmener et je ne pourrais rien faire. Mais, non, ne dis rien, Thomas. Je vais te faire un cadeau. Je vais te faire un cadeau d'une langue. C'est une langue de vérité. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Moi, je raconte des contes. Ne t'inquiète pas et tu verras bien. » Elle a posé la main sur le front de Thomas qui s'est évanoui. Lorsque Thomas s'est réveillé, il était au pied de son aubépine. Ah, ce n'était qu'un rêve. Il a repris son bâton de marche et il est redescendu du mont Ben-Nevis. Il est allé au premier village qu'il avait l'habitude de traverser. Et à l'entrée du village, il s'est arrêté. De stupeur, il a lâché son bâton. Le village était en ruine. Les portes étaient branle-ballantes, les volets claquaient dans le vent. Il n'y avait personne. Il a erré tout le long du village et il est reparti. Il a traversé un deuxième village qui était en ruine lui aussi. Au bout d'un moment, il est arrivé au pied d'un château. Il a frappé à la porte. Bonsoir. Je voudrais un couchage et un souper. Je suis barde et je pourrais vous proposer des contes. Vous tombez bien. Mon maître fait une soirée ce soir. Entrez. Lorsque le repas a eu lieu, au bout d'un moment, on a demandé à Thomas de compter. Mais au lieu de raconter les histoires dont il avait l'habitude, il a conté ce qui lui était arrivé. Mais voyons, ce n'est pas possible, vous avez dû rêver. Non, je vous assure, ça m'était bien arrivé. Mais c'est impossible. Monseigneur, un vieillard s'est levé. Oui, je t'en prie, parle. Je me souviens quand j'étais petit dans mon village, il y avait un barde qui passait nous raconter des histoires. On l'appelait Thomas le poète. Mais c'était il y a plus de 80 ans. Alors Thomas est parti se coucher. Le lendemain, il a repris son bâton de marche. Il est retourné sur le mont Ben-Nevis. Dans le pré, il a construit une petite cabane en bois. Et à partir de ce moment-là, les gens sont venus le voir. Il avait eu un don de double vue, il était devenu sage, et on demandait des conseils. On ne l'appelait plus Thomas le poète, ni Thomas le rimeur. On l'appelait maintenant Thomas le véridique. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Simplement, des enfants, un jour, l'ont vu redescendre, rentrer dans une forêt. Il suivait une jument blanche. Et depuis, on n'a plus jamais revu. Mon compte est terminé. Je le repose au pied de cette homme où je l'ai trouvé et où quelqu'un viendra sûrement le reprendre.
Et maintenant, nous avons plein de fabuleux jus de fruits.
Moi, je voudrais dire juste un mot sur ce livre. Voilà, parce que moi, je n'ai pas encore publié le mien. Non seulement c'est un travail formidable qu'ont fait Audrey et Virginie, un gros boulot, c'est un livre sérieux, mais en plus il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Ça fourmille indication, on n'avait rien piqué à personne parce que je ne connais pas d'équivalent de traitement des faits aujourd'hui. Voilà. Donc moi, c'est un livre qui m'apporte beaucoup dans la pollution, mais qui m'aide beaucoup. Voilà. Donc, c'était juste un petit peu de pub. Puis, en plus, regardez, ce sont deux fées. Donc, pour leur bouquin. Voilà.
Merci.